Bonsoir à tous. L'agriculture du Touarçais scrutée par le préfet des Deux-Sèvres. Une matinée sportive ce mercredi au lycée Saint-Jean de Bressuire. La période de 39-45 à la chapelle Saint-Laurent, c'est ce week-end. Au château, les enfants, l'animation du château de Saint-Mémin débute demain.
La météo, à l'issue du journal, le soleil va s'imposer à partir de demain après-midi. Le préfet des Deux-Sèvres ausculte l'agriculture du Touarçais.
Près de 30 agriculteurs de la FDSEA des Deux-Sèvres ont accueilli hier matin le nouveau préfet, Simon Fété, au GAEC Roy et Tavard à Mauzé-Touarçais, près de Thouars. Une exploitation de polyculture élevage. Les sujets de conversation n'ont pas manqué, dont ceux brûlants de l'usage de produits phytosanitaires comme les néonicotinoïdes. En débat au Parlement, Simon Fété aux micro-collines de Dominique Hérault.
Il reviendra maintenant aux sénateurs et aux députés de la commission mixte paritaire de se prononcer sur ce que doit contenir ce projet, que ça concerne les produits phytosanitaires ou les autres dispositions d'importance d'ailleurs qu'il regroupait. Sur les autres sujets, évidemment les questions d'eau, dont je sais qu'elles sont centrales, délicates, très interconnectées avec d'autres, l'installation, la viabilité économique des exploitations, les zoonoses, c'est-à-dire ces pathologies qui affectent les bêtes et les moyens d'y travailler, et puis enfin les questions de formation qui sont si importante pour attirer de la main-d'œuvre qualifiée et maintenir et développer l'activité agricole. C'est évidemment l'un des aspects de mon métier. Dans des configurations complexes, trouver des solutions. Et on compte généralement d'autant plus sur le préfet que les questions sont difficiles. Dans celles que j'ai citées, un certain nombre d'entre elles sont en effet assez complexes.
De son côté, le président départemental de la FNSEA, le Touarçais Jean-Baptiste Razillard, a pu brosser un tableau moyennement flatteur de l'agriculture locale.
Depuis un an et demi, on a des problèmes d'eau dans les champs. Donc on n'a pas réussi à semer déjà dans un premier temps dans l'automne 2023 et aussi au printemps 2024. Et on a donc récolté dans des conditions très compliquées, des cultures, des ensilages très compliqués. Donc on a des situations économiques d'exploitation qui sont très difficiles. L'élevage, du coup, on a des fourrages de mauvaise qualité. Ça se connaît sur la production, sur les animaux. Certains éleveurs ont été obligés d'acheter plus de granulés, plus de paille, alors que d'habitude, ils avaient la production chez eux directement. Donc ça impacte directement les exploitants.
Et il y a la question de l'eau aussi.
Oui, il y a une échéance 2027 avec des baisses de prélèvements, notamment au niveau du Touet. 200 000 mètres cubes au lieu de 1 200 000. Ça va être des exploitations qui vont être fragilisées puisqu'on ne pourra pas produire du fourrage de qualité pour nourrir les animaux. Et c'est aussi des pertes au niveau des producteurs de semences, des maraîchers aussi, sur le secteur du Touarçais. S'ils n'ont pas d'irrigation, ils ne pourront pas avoir de légumes. En termes d'installation, on a une population agricole qui vieillit, donc on a besoin de perspectives plutôt positives pour installer des jeunes.
À cela, il faut ajouter l'effet boomerang de la guerre en Ukraine, effet pervers car si l'Europe surtaxe les engrais d'origine russe, cela augmente leur coût pour le budget des exploitations françaises. Entre Trump et Poutine, la macro-politique internationale vient percuter la micro-économie au bout du champ et toute cette salade se retrouve dans nos assiettes. Le reportage de notre correspondant en Touarçais, Dominique Hérault.
Une matinée sportive au lycée Saint-Joseph de Bressuire.
Matinée qui s'inscrit dans le cadre de la journée Unidée, créée en 2017 et organisée tous les ans sur le dernier mercredi du mois de mai. Cette initiative a pour but de célébrer les droits de l'enfant et l'engagement des jeunes partout en France. Cette année, le thème retenu par l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, est « Mon climat, mes droits ». Aurélien Oustric, référent pour le Nord de Sèvres.
Le sujet cette année, c'est autour du climat, de l'alimentation et toujours du droit des enfants, puisque c'est l'UNICEF. Et donc, on a décidé d'organiser ça avec les profs de sport et avec certains élèves de l'UF2S pour leur permettre d'apprendre à former et à encadrer des groupes.
Vous dites qu'on s'occupe du climat, de l'alimentation, tout ça. En quoi ça se ressent dans les ateliers sportifs là, qui font les jeunes?
Eh bien, ça se ressent notamment à travers donc certains questionnaires qui sont faits. À travers l'alimentation et le climat, il y a notamment aussi un atelier autour des boissons et autour voilà des bonnes boissons à prendre et de l'importance de faire attention voilà à ce qu'on boit et notamment plus généralement à travers aussi la pratique sportive puisque l'objectif aussi c'est de promouvoir la santé à travers le sport et à travers des animations plutôt sympas.
Les élèves du lycée Saint-Jean de Bressuire ont pu participer à différentes animations au cours de leur matinée, des matchs de sport collectif, une course d'orientation et aussi un parcours crossfit pensé par 11 élèves des classes UF2S, l'unité professionnelle facultative secteur sportif. Thibaut, élève en seconde générale, a participé à la création du parcours. Il est au micro du Hugo Schwander.
Avec mes camarades, on va leur donner des conseils pour qu'ils améliorent leurs conditions physiques. Donc nous, sur le premier atelier, on a fait un sprint. Ensuite, du coup, on a fait du wall ball. Ça consiste à lancer en l'air une balle plus lourde que la normale et en la rattrapant en faisant un squat. Le troisième atelier, du coup, c'est des sauts sur les marches. Là, ça fait travailler le cardio puisqu'on en fait 15. Ensuite, on fait un sprint pour aller direction les dips. Et ensuite, la dernière atelier, c'est un sprint pour revenir au point de départ. Moi, j'aime bien organiser. Moi, ça me gêne pas vu que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'aimerais bien partir dans ce corps de métier.
Comme Thibaut, les élèves qui ont créé le parcours veulent se spécialiser dans le sport et tout ce qui l'entoure. À noter qu'un accent a été mis sur l'égalité homme-femme pour déconstruire les stéréotypes. Ces ateliers avaient aussi pour but d'apporter de la cohésion dans les classes en cette fin d'année scolaire. L'espace d'un week-end, la Chapelle Saint-Laurent va faire revivre la période 39-45. Une année entière de travail et de recherche aura été nécessaire aux membres de l'association Chapelle Anime pour mettre sur pied cette immersion dans le temps grâce aux archives de la commune et la contribution de particuliers au travers de documents personnels ou d'objets datant de cette période. Il faut en effet savoir que la Chapelle Saint-Laurent a été un haut lieu de la résistance lors de cette Seconde Guerre mondiale, comme le rappelle au micro de Patrice Bémanangy, Jacques Picherie, le président de Chapelle Anime.
Nous avons été la première région de France à recevoir des armes qui ont été larguées sur un terrain qui est à 4 km de la Chapelle Saint-Laurent. Donc on a eu 6 tonnes d'armes en 4 largages et récupérées par des résistants chapelais. Tout ce qui a été récupéré sur le site de Villeneuve, en fin de compte, était stocké la plupart du temps à la Chapelle Saint-Laurent. Ça arrosait donc Montcoutan, ça arrosait Boimé et ça arrosait Bressuire aussi. Mais nous, on arrosait vraiment le bocage, c'est vraiment l'histoire du bocage.
Lors de ce week-end-là, vous allez présenter des documents originaux.
Alors, on a la chance à la Chapelle Saint-Laurent d'avoir regardé tous les documents qui sont de cette période-là, 39-45. Donc, on a des Osweil, des Oftrag, on a même les papiers d'arrestation de nos résistants parce qu'ils ont été arrêtés. On a des papiers sur la vie agricole, sur la vie sociale. On a des papiers sur les réfugiés ardennais qu'on a retrouvés. Donc, on a plein de choses. On récupère quand même une radio qui a été larguée en 1942 en état de marche. On raconte sur à peu près 80 panneaux toute cette histoire, jour par jour, heure par heure. Et on a la chance d'avoir encore des fils, des petits-fils, des filles de résistants qui seront là cette journée-là pour nous donner un coup de main en plus pour narrer toute cette histoire.
Hormis cette exposition de documents originaux, sera aussi projeté en boucle durant tout le week-end un film de 1946 de 22 minutes, inconnu du grand public, retraçant la procession de prisonniers STO du service du travail obligatoire et de déportés portant la croix de Buchenwald à la mémoire de celles et ceux qui ne sont pas revenus des camps. Procession partie de la Chapelle Saint-Laurent vers le site de pitié. Cette immersion durant cette période 39-45 ira même jusqu'à une exposition de véhicules.
On a tout un corps américain, des Jeep, des Dodge, des Aftrak. On a des véhicules d'époque aussi, tels que des U-23, beaucoup de véhicules civils, U-23, des 403, des 202, des Juva 4, on a des tractions. On va avoir du matériel agricole aussi d'époque, parce qu'en fin de compte, tout ce qu'on a trouvé à la mairie, ça nous permet d'évoquer tous les métiers qu'il y avait, tout ce qui se passait à la Chapelle Saint-Laurent.
Et vous avez même poussé le vice, entre guillemets, jusqu'au bout avec une soirée de jazz.
Alors oui, ça c'était pour finir en beauté, parce que bon, c'est dit, pourquoi pas le soir, faire une soirée de jazz. On a un parquet, donc on pourra danser ce soir-là, et nous, on sera tous en costume d'époque, hein, bien sûr. Nous, on sera en résistant. Tous les gens qui viennent sont invités, bien sûr, à venir d'époque. Ça peut être assez sympa.
39-45, la Chapelle Saint-Laurent, ce sera ce week-end des 31 mai et 1er juin sur le site de la Vallée Verte avec la présentation exceptionnelle d'un char américain Sherman de 30 tonnes prêté par le musée des blindés de Saumur, sans conteste l'une des attractions phares de cette animation. De jeudi à dimanche, le château de Saint-Mémin organise son événement annuel au château Les Enfants et cette année la destination finale du voyage sera le Moyen-Orient. Pendant 4 jours, plusieurs compagnies se rendent en terre de Sévrienne pour faire des chorégraphies, pour chanter ou pour vous faire découvrir les alentours du château à Dodane. Un programme pensé par Éric Nicolas, responsable culturel du lieu.
Depuis des années, on propose des animations au château, avec tous les ans une thématique qui change. Cette année, c'est voyageurs au Moyen-Âge. Donc là, sur le week-end de l'Ascension, on va aborder plutôt voyage oriental. On va pas partir en Orient, hein. C'est l'Orient qui va venir plutôt à nous. Donc on aura un campement avec une grande tente berbère, et puis des personnages un petit peu aux couleurs d'Orient, donc qui vont parler à la fois de la route des épices, va aborder des contes aussi orientaux. Il y aura aussi une partie militaire, hein, quel était l'équipement militaire qui était totalement différent de nos chevaliers ici, on va dire. Il y aura des choses autour aussi des jeux de société de l'époque. Il y aura aussi, ça sera mis sous forme de petits spectacles, et puis il y aura aussi autour d'un instrumentarium aussi. aussi de, voilà, les différents instruments de musique, les sonorités, les échanges justement qui se sont créés entre Occident et Orient. Donc voilà, ça c'est ce qu'il y aura. Plus après, voilà, pour les plus jeunes aussi, des petites balades en âne ou en carriole avec un âne tout au long de la journée.
L'idée derrière ces échanges prévus tout au long du week-end est aussi de casser les préjugés sur cette région et que les enfants en apprennent davantage sur ce vaste territoire. Éric Nicolas au micro du Gauchlander.
On va dire des vrais morceaux d'histoire dans ce qui va être proposé. Donc c'est soit sous forme de spectacle, hein, où on se pose, on regarde, soit souvent c'est avec, voilà, des personnages qui vont animer des espaces. Sur les épices, ben, on va essayer de donner des explications, l'origine de certaines épices, à vous les faire sentir. Mais voilà, il y a toujours un côté à la fois tactile, participatif, avec de l'échange. C'est pas figé. Quand on regarde l'actualité moderne, il se passe plein de choses qui devraient être bonnes, mais qui ne le sont pas toujours. À l'époque, je pense que la problématique est aussi un peu la même, hein. On a aussi des guerres, on va dire, entre chrétienté et islam. Mais c'est aussi les croisades, voilà, c'est pas que militaire. Il y a aussi, il faut pas oublier que c'est aussi des choses qui ont amené beaucoup de choses autour de la gastronomie, de la médecine, des sciences, même au niveau, je dirais, vestimentaire. Donc il y a eu aussi des échanges positifs. Faut pas toujours se fixer sur le négatif. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut mettre ces choses-là en avant.
L'année dernière, le site avait reçu environ 800 personnes, mais il y a la possibilité de faire mieux et d'accueillir encore plus de monde. Le château ouvrira aussi ses portes durant la pause méridienne pour pouvoir se restaurer sur place. Les inscriptions se font sur Internet ou directement au château de Saint-Mémin, à l'accueil de jeudi à dimanche.
L'actualité sportive, Vincent, avec d'abord du basket.
Battu par Bourg-en-Bresse ce lundi soir à la Meilleraye, les hommes de Fabrice Lefrançois n'ont d'autre alternative que de s'imposer ce soir en terre bressane, sous peine d'être éliminés des play-offs. Mais le coach de Cholet Basket n'a pas dit son dernier mot.
On sait pourquoi on a perdu. Donc bien évidemment, je ne vais pas vous exposer tout le truc. Il nous faut qu'on corrige un petit peu nos points faibles du soir. On a été dominé aujourd'hui. La vérité d'un jour n'est pas forcément celle du lendemain.
Le coup d'envoi dans moins d'une heure, hein, à 19h sur le parquet de l'Equinox à Bourg-en-Bresse. Et puis du tennis de table, le dernier match de la saison de Pro A pour la Romagne ce soir à la maison face à Chartres. Le coup d'envoi, on l'a dit, 19h30, match sans enjeu pour les Romagnons, déjà assurés de rester parmi l'élite l'année prochaine.
Quel temps aujourd'hui ? Découvrez la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
À peu de choses près, Vincent, toujours le même scénario, hein, depuis le début de la semaine.
Oui, avec un ciel encombré de nuages et plus ou moins d'apparitions du soleil, des nuages qui demeurent néanmoins inactifs, toujours autant de vent ce mercredi avec de possibles rafales à 40 km/h, 20 ou 21 degrés, hein, pour les maximales aujourd'hui. Demain, après une matinée encore un peu nuageuse, le soleil doit finir par s'imposer dans l'après-midi et ça commence à monter au niveau des maximales ce jeudi avec environ 25 degrés car le grand week-end qui s'annonce l'est très agréablement. Les journées de vendredi et samedi s'annoncent même estivales avec des maximales qui vont atteindre voire dépasser les 30 degrés localement. Voilà qui va ravir les jardiniers, les agriculteurs aussi, hein, qui ont coupé leur foin. Et vous qui êtes peut-être déjà en route pour ce long week-end qu'on vous souhaite excellent. Attention, le thermomètre redescendra un peu dimanche.
Eh ben, on vous souhaite bonne route. Et merci Vincent pour toute l'info près de chez vous. C'était l'édition du soir sur Colline. Pas d'info près de chez vous demain, bien sûr.
Ouais, le retour, c'est vendredi matin avec Patrice Bémanangy. Quant à moi, j'aurai plaisir à vous retrouver vendredi soir 18h. Excellent long week-end avec Colline.
C'était la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres. L'énergie est notre avenir, économisons-la.